c'est Martine. Merci de choisir Radio Plus pour accompagner votre début de semaine. Jean de la Bruyère disait « Ceux qui emploient mal leur temps sont les premiers à se plaindre de sa brièveté ». Chaque lundi, nous déclinerons ensemble ce mot « temps » à la fois pour le combler, pour le passer agréablement, pour en faire quelque chose d'utile, pour ne pas le perdre, pour quelquefois le rattraper, pour ne pas le trouver long, pour apprécier l'éphémère, pour le rendre fort aussi, pour le rendre moderne mais pas trop, pour en parler au passé, pour le tromper, pour le tuer, pour qu'il ne soit jamais maussade. Bref, chaque lundi de 9h à 10h, je vous dirai comment rester dans l'air du temps en le prenant comme il vient. C'est sur Radio Plus, votre radio. J'espère, je vous savais que cette phrase interrogative hein, provient d'une ancienne coutume romaine. Et oui, heureusement, la fin de la phrase est perdue, il n'en est resté que le début. Comment allez-vous? Comme un lundi, me répondront probablement plusieurs d'entre vous. Une expression qui irritera inévitablement certains autres. Et en plus du côté automatique et désagréable de cette réponse, eh bien, elle semble porter en elle-même le pessimisme qui colle comme un sparadrap à l'expression « bon courage ». Dans les deux cas, cela veut dire que ceux qui répondent « ceci s'apprête à passer une journée, voire une semaine entière de désespoir dans un espace sinistre peuplé de gens affreux ». Et puis, comme un lundi implique que tous les lundis sont tous aussi moroses, quel fatalisme! Égayer un début de semaine relèverait alors du miracle, et pourtant je vais essayer de le faire avec, pour cette première heure, l'air du temps, suivi de Kaléidoscope, une émission de variété. Allez, très bonjour à vous, une très très bonne matinée sur le 104.3 FM.
Depuis le temps qu'on se connaît, que l'on se croise intimidé, en coup de vent dans les couloirs, comment ça va? Bonjour, bonsoir. Depuis le temps qu'on se dit vous, si l'on pensait un peu à nous, qu'on arrêtait les phrases creuses et qu'on passait aux choses sérieuses. Si l'on parlait un peu d'amour, si l'on s'en allait faire un tour dans cet endroit bien plus glamour, où le cœur bat comme un tambour. Depuis le temps qu'on se tourne autour, si l'on changeait l'ordre du jour, si l'on parlait un peu d'amour. Avant d'être totalement gâteux, qu'est-ce qu'on attend pour être deux? Depuis le temps qu'on se court après, qu'est-ce qu'on attend pour s'effleurer? Si l'on parlait un peu d'amour, si l'on s'en allait faire un tour dans cet endroit bien plus glamour, le cœur bat comme un tambour. Depuis le temps qu'on se tourne autour, s'ils l'ont changé l'ordre du jour, s'ils l'ont parlé un peu d'amour, un peu d'amour, s'ils l'ont parlé un peu d'amour, s'ils l'ont s'en allé faire un tour dans cet endroit bien plus que l'amour, où le cœur bat comme un tambour. Depuis le temps qu'on se tourne autour, s'ils l'ont changé l'ordre du jour, s'ils l'ont parlé un peu d'amour.
C'est sur Radio Plus. Alors, dans l'air du temps aujourd'hui, avec Jean-Louis Ouattet, président de l'Étrême Nature, nous ferons un point sur la situation hydrologique de notre région. Et oui, en décembre 2017, de nombreux passages pluvieux et parfois neigeux se sont succédés sur le bassin Artois-Picardie, entraînant des débordements de cours d'eau. Les débits des cours d'eau sont tous en hausse et supérieurs au normal de saison. La recharge hivernale des nappes souterraines a enfin débuté. Et pourtant, Jean-Louis nous dira que certaines nappes souterraines sont encore déficitaires. Bon, d'accord, vous l'avez compris, ce n'est pas le moment d'arroser notre jardin, mais malgré le froid, on peut quand même aller y prendre une bonne bouffée d'oxygène, penser à nos arbres et à tous ces habitants. Et nous verrons cela, bien sûr, avec Bertrand Trinel, président de l'Association des paysages, des jardins et des hommes. Et puis, nous entendrons Fabienne de Oliveira, qui a reçu le prix Solidarité version Fémina et qui est à l'origine d'une résidence destinée aux jeunes adultes autistes qu'elle aide à devenir autonome. Et tout cela, bien sûr, c'est sur Radio Plus.
Je lance un baiser dans le ciel de la rue. Va-t-il se poser? Est-ce que quelqu'un l'a vu? Il vole en silence, au petit bonheur la chance. Il traîne les faubourgs dans les arrière-cours. Regardez dans les airs, au milieu des boulevards, si vous voyez mon baiser qui s'égare. Yeah.
baiser par hasard.
Enrico Macias, toujours aussi généreux, bien sûr. Alors aujourd'hui, dans l'air du temps, notre enquête, évidemment, mais surtout des statistiques qui peuvent nous réjouir, mesdames, à savoir que 163 millions de femmes ont créé leur boîte ces deux dernières années dans les 74 pays participant à l'étude du Global Entrepreneurship Monitor, soit une progression de 10%. Et puis, 28% des chercheurs sont des femmes et 3% des prix Nobel scientifiques sont aussi des femmes. Eh oui, les femmes sont encore en minorité, mais peut-être pas pour longtemps.
Encore un cas désespéré où le féminin sacré est mis à mal et confronté. Masculin inadapté. Elle rêvait d'infini, d'immensité pour deux. Regardait les étoiles et soupirait des vœux. Elle voulait avant tout vieillir auprès de lui. Gagner le pari fou de l'aimer toute une vie. Il voulait lui offrir tout l'or de l'univers. Parlait de trésors enfouis au fond des mers. Ce rêve inassouvi de puissance et de gloire, dressé entre elle et lui, a gâché leur histoire. Encore un cas désespéré où le féminin sacré est mis à mal et confronté au masculin inadapté. Pauvre Béotien n'avait rien compris, mais toujours sûr de lui, imposait son avis, arrachait sans regret les ailes des papillons. Quand l'enfant s'attardait au fond de sa raison, elle a fait le vide dans son cœur, dans sa tête. Elle a repris ses fêtes, ses voyages, ses comètes, le laissant dans son néant, sans faire d'éclat tout doucement. Elle est partie au petit jour, son baluchon trop plein d'amour. Encore un cas désespéré où le féminin sacré est mis à mal et confronté au masculin inadapté. Encore un cas désespéré où le féminin sacré est mis à mal et confronté au masculin inadapté. Seul aujourd'hui, assis sur son tas d'or, il est triste et s'ennuie de celle qu'il aime encore. Elle a toujours pour elle l'infini, les étoiles et des vœux à l'appel qui parfois lui font mal.
Adamo est tout de suite avec nous, Jean-Louis Ouatté pour Saltan sur la planète. Alors, on va quand même lui mettre à Jean-Louis son petit indicatif, n'est-ce pas, pour annoncer sa rubrique. En attendant qu'il se place, ce que je voulais vous dire, c'est que quand même, il y a 218 ans, naissait Charles Darwin. C'est quand même un événement, ça.
Sur la planète. Oh, le drôle, drôle de temps.
Et oui, les signes annonciateurs du naufrage s'accumulent. La solution ? Opter pour la force des passions et mener le combat nécessaire.
Et oui, bonjour Jean-Louis.
Bonjour Martine.
Alors, c'est vrai qu'il y a 218 ans, naissait Charles Darwin. C'est quand même quelque chose, ça, parce que Charles Darwin a vraiment... c'est un savant qui a marqué vraiment son époque sur l'évolution des quelque chose qui peut-être, quelque part, vous plaît, quand même.
Ah bah, tout à fait, hein. C'est quand même...
un personnage fondamental dans tout ce qui touche à la biodiversité.
Tout à fait. Alors Jean-Louis, le nord de la France, on va dire la moitié de notre pays situé au nord, a connu ces derniers mois de nombreux passages pluvieux. Alors il est tombé en général deux fois plus de pluie que la moyenne. Cela s'est traduit par des inondations ponctuelles. Les débits des cours d'eau sont tous en hausse et supérieurs au normal de saison. Alors je me souviens, Jean-Louis, qu'en juin 2017, eh bien, on vivait chez nous une époque de sécheresse. Et d'ailleurs, les préfectures du Nord et du Pas-de-Calais ainsi que de l'Aisne appelaient à économiser l'eau et certaines mesures d'interdiction ont été mises en place car les nappes phréatiques étaient au plus bas. Alors Jean-Louis, je suppose qu'actuellement elles sont au plus haut ?
Bah non, malheureusement les niveaux ne sont pas au plus haut. On a une recharge des nappes mais certaines étaient à des niveaux quand même assez bas. Savoir que la pluviométrie du mois de décembre 2017, donc du mois de décembre dernier, a permis une alimentation des nappes. Donc ça veut dire que la recharge hivernale a commencé, en particulier à l'ouest de la région. Mais faut savoir que la mauvaise recharge durant l'hiver 2016-2017 a conduit à des niveaux relativement bas depuis plusieurs mois. Et cette tendance est encore visible, en particulier au centre et à l'est de la région. Ainsi, sur 15 piézomètres, alors les piézomètres, c'est des sondages hein, pour mesurer le niveau des nappes à l'aide de la pression. Je vais pas rentrer dans les détails techniques, mais sur 5 piézomètres sur 15, qui n'est pas 15 analysés, montrent un niveau modérément bas. Et 3 piézomètres montrent un niveau bas. Donc, on est loin du compte au niveau de la recharge des nappes.
Alors, cela veut donc dire que le fait que les sols superficiels soient saturés d'eau n'entraîne pas forcément recharge de la nappe phréatique, finalement.
Ah non, parce que faut savoir que l'amplitude des fluctuations des nappes, ça dépend de plusieurs paramètres. Bon, ça dépend des caractéristiques hydrodynamiques de l'aquifère, hein, de la masse d'eau. Ça dépend de la profondeur. Ça va dépendre de l'épaisseur de la nappe, ça va dépendre de sa perméabilité, la perméabilité du recouvrement. Hein, par exemple, la nappe de la craie, elle peut être recouverte par une couche plus ou moins limoneuse, plus ou moins argileuse. Et puis ça dépend aussi de la distance aux exutoires, c'est-à-dire aux sorties. Et puis ça dépend bien entendu de l'importance de l'infiltration, hein, de l'infiltration qui se veut efficace. Par exemple, on a quand même une hétérogénéité dans les différentes nappes. Par exemple, dans le Boulonnais, les aquifères sont beaucoup plus réactifs que ceux de la craie. Savoir que la craie, ça représente la majorité des nappes, des ressources en eau de la région. Donc la pluviométrie du mois de décembre, qui a été abondante, a permis, dans le Boulonnais par exemple, d'observer assez rapidement une hausse du niveau piézométrique.
Alors vous avez reçu justement, Jean-Louis, le bulletin de situation hydrologique du mois de décembre 2007. Alors d'abord...
2017, oui.
Oui, 2017, pardon. Alors d'abord, qu'est-ce qu'un bulletin de situation hydrologique ?
Alors le bulletin de situation hydrologique du bassin Artois-Picardie, il est édité tous les mois par la DREAL. La DREAL, c'est la Direction Régionale de l'Environnement, de l'Aménagement et du Logement. C'est l'antenne du ministère de l'Écologie dans la région. Donc ce bulletin de situation hydrologique donne les principales informations du mois écoulées sur l'état de la ressource en eau et puis les événements marquants. Donc il est édité donc chaque mois et il regroupe des informations détaillées. Alors, un, sur les précipitations du mois, donc ces données sont fournies par Météo France. Deuxièmement, sur l'évolution du niveau des eaux souterraines, donc c'est fourni par le BRGM, c'est le Bureau de ressources de géologie minière. Sur les débits des cours d'eau, hein, des stations, donc il y a différentes stations qui permettent de mesurer les débits des cours d'eau donc sur le bassin Artois-Picardie. Et puis des éléments sur les écosystèmes et les milieux aquatiques qui sont produits par l'Office national de l'eau et des milieux aquatiques. Donc il est disponible, il est ouvert au public, hein, il est disponible sur le site de la DREAL Nord-Pas-de-Calais. Alors, il faut savoir qu'il y a une surveillance continue hein, avec toute une réglementation des débits des rivières et des niveaux de nappes souterraines, avec des niveaux de gravité, hein, des niveaux de vigilance, d'alerte, de crise sur l'état de la ressource en eau, notamment sur les périodes de faible disponibilité qui seront liées à la sécheresse. Donc, la région Nord-Pas-de-Calais dispose aussi d'un système d'information pour la gestion des eaux souterraines, donc ce qu'on appelle un SIGE.
Alors, je suppose que ce bulletin a fait état d'un bilan pour l'année 2017, avec sans doute comparaison faite avec les années précédentes. Alors, une conclusion a-t-elle été établie ?
Bah, il faut savoir que les chroniques piézométriques hein, permettent d'observer le niveau d'eau et d'en interpréter les tendances, hein, que ce soit la hausse, baisse, stabilisation d'une nappe en un point et puis à un instant T. Donc c'est l'image et l'évolution d'une nappe en un point. Donc ça peut couvrir, certaines chroniques qui sont disponibles peuvent couvrir plusieurs dizaines d'années. Alors elles peuvent être continues ou discontinues. Bon, la discontinuité, elle peut être liée par exemple à des problèmes techniques. Pendant un certain temps, le piézomètre ne fournit pas des données utilisables. Donc, faut savoir que sur certains piézomètres, la surveillance a commencé dans les années 1900, et donc on a vraiment un réseau de données importantes. Pour la nappe de la Craie, par exemple, le réseau piézométrique comportait 137 points de mesure jusqu'en 97, à l'époque où il y a eu une redistribution des points de mesure. Et donc, on est revenu à 91 points d'observation pour la nappe de la Craie. Et donc, eh bien, on a un historique hein, des fluctuations de la nappe de la Craie. Donc, alors ces fluctuations, elles peuvent être saisonnières ou annuelles. Hein. C'est lié, bien entendu, aux pluies efficaces de l'automne et de l'hiver. Et puis, ça peut être lié aussi à la pluviosité des années antérieures. Donc ça fait apparaître par exemple pour la nappe de la Craie des périodes de hautes à très hautes eaux, hein, des années 66, 70, 75, 78, 85, 88 et 95, et puis des périodes avec des étiages très sévères, hein, par exemple la période 72-74, ou 76-77, ou 96-97, on a des périodes d'étiage. Étiage, c'est des périodes très sèches, et donc c'est important, donc on a quand même un historique alors qui permet justement de suivre ces nappes. Alors conclusion, ben non, il n'y a pas de conclusion qui peut être établie au niveau du bulletin de situation hydrologique, mais on en reviendra à la question suivante. C'est vrai qu'au niveau climat, ça permet quand même de dégager des tendances.
Est-ce qu'on peut dire que quand même, justement dans notre région, nous sommes en train de subir un premier changement climatique? Et c'est vrai que là, il y a beaucoup à dire, Jean-Louis, et on y reviendra lors d'une prochaine émission.
Oui, tout à fait. Il faut savoir que dans la région, on a un observatoire du climat du Nord-Pas-de-Calais qui est porté par le CERD. Le CERD, c'est le Centre d'études et de ressources pour le développement durable qui est basé donc à Losangoël. Et donc, ce qu'ils annoncent, c'est quand même assez clair, c'est que dans notre région, le changement climatique est déjà là. Hein. Il y a des indicateurs qui convergent. Alors, il y a les températures à la hausse. Il y a une baisse du nombre de jours de gel, il y a une augmentation du nombre de jours de fortes pluies, particulièrement sur le littoral, il y a une hausse du niveau de la mer. Donc le climat de la région a changé et continue de changer, donc avec des impacts qui sont mesurés et qui sont significatifs. Savoir que la température moyenne, elle est de plus 1,75 degrés à Lille entre 1955 et 2016. Donc ça, c'est des chiffres clairs. Le nombre de jours de gel, par exemple, en tendance, il a diminué fortement dans notre région. Hein, sur la période de 1955-2016, le nombre moyen de jours de gel est de 27 jours. Rien de comparable avec... alors évidemment, c'est des jours moyens. Hein. Il y a 62 jours de gel en 55 et 11 jours en 2016. Donc, il y a une tendance, hein, par exemple, une absence complète de jours de gel. Par exemple, la tendance, hein, c'est bien une tendance. Absence complète de jours de gel à Boulogne-sur-Mer en 2055, si on continue à cette allure-là. Après, on a davantage de fortes pluies, notamment en bord de mer, hein, et c'est moins perceptible à l'intérieur des terres. Et puis, on a une nette tendance à la hausse du niveau de la mer. Hein. Les relevés, par exemple, à Dunkerque, indiquent une hausse de la mer de 9,5 cm. C'est pas négligeable, hein, entre 1956 et 2016. Donc, ce qui fait qu'une élévation moyenne de 1,6 cm par décennie. Donc, tous ces chiffres-là, ils sont clairs. Hein.
Alors, ça veut dire, évidemment, mais je vous dis, on y reviendra, parce que le sujet mérite d'être traité à fond, si je puis dire. Alors, évidemment, nous allons connaître de plus en plus de crues, voire d'inondations. Mais, comme on le sait, des mesures sont prises pour limiter le réchauffement climatique et donc les conséquences météo, c'est-à-dire pluie bien plus forte et risque d'accrues d'inondations, comme je viens de le dire. Mais Jean-Louis, ne devrait-on pas prendre aussi des mesures, je dirais, pour limiter, voire interdire les bétonnages à outrance, c'est-à-dire les parkings, les zones d'activité, comme on les appelle, qui s'installent bien souvent sur des champs captants. Là aussi, ça mérite de traiter ce sujet lors d'une prochaine.
Tout à fait. Hein,
d'un prochain entretien.
Mais il y a déjà des mesures qui sont prises, mais il faut savoir que malheureusement, l'économique passe souvent devant et on voit encore des choses qui ne devraient pas exister et qui en fait vont justement contre les mesures qu'on devrait prendre pour limiter justement ces phénomènes liés au réchauffement climatique, au changement climatique.
Tout à fait. On ne s'y prépare pas, je dirais.
Alors,
évidemment, Jean-Louis, j'ai envie de dire qu'il y a du boulot, beaucoup de boulot. En tout cas, merci à vous. Je vous dis à la semaine prochaine.
À la semaine prochaine. Bonne semaine.
Bonne semaine à vous, Jean-Louis.
Quels sont les prénoms de la France qui résonnent dedans nos cœurs? De la Dordogne à la Durance, ce sont les hymnes du bonheur. Quand elle descend des collines, qu'elle tourne autour d'un vieux château, pour se faufiler en ondine dans les ruelles d'un ruisseau.
Comme elle est belle l'eau, comme elle est belle l'eau, comme elle est belle l'eau de mon pays. Comme elle est belle, comme elle est belle l'eau, comme elle est belle l'eau de vie.
Parfois elle devient mauvaise, elle se heurte à trop de béton. C'est de la boue, c'est de la glaise qui envahissent nos maisons. C'est la débâcle, le désordre, quand elle est lasse de son lit. Elle sort tous ses chiens pour nous mordre et fracasser notre midi.
Elle est rebelle l'eau, elle est rebelle l'eau, elle est rebelle l'eau quand elle s'ennuie. Elle est rebelle l'eau, elle est rebelle l'eau, elle est rebelle l'eau de pluie. Comme elle est belle l'eau, comme elle est belle l'eau, comme elle est belle l'eau de mon pays. Comme elle est belle, comme elle est belle l'eau, comme elle est belle l'eau de vie.
Et le grand coup de rein du Rhône, ce bel athlète de combat, qui court vite applaudir la faune, l'oiseau dingo dans son delta. Mais moi je sais que l'eau est l'âme, l'avenir de nos pauvres vies, que de partout on la réclame, à cœur, à corps, à mort, à cri.
Comme elle est belle l'eau, comme elle est belle, comme elle est belle l'eau de mon pays. Comme elle est belle l'eau, comme elle est belle.
Eh oui, qu'elle est belle cette eau. C'est quand on en manque qu'on s'aperçoit qu'elle est vraiment belle cette eau. Serge Lama qui est actuellement sur la scène de l'Olympia. L'eau de vie, donc une bien belle chanson, très écolo. Une chanson qui doit plaire à Bertrand Trinel que l'on accueille tout de suite sur notre antenne, pour la rubrique Jardiner autrement.
Il y avait un jardin qu'on appelait la terre.
Si tu veux être heureux toute la vie, dit le proverbe, fais-toi jardinier. Chaque semaine, Bertrand Trinel, président de l'Association des paysages, des jardins et des hommes, vous aide à cultiver le vôtre 100% nature. Freud affirmait que la seule chose importante dans la vie, c'est le jardinage. Mais la seule chose importante dans la vie, n'est-ce pas notre santé, c'est-à-dire notre environnement? Bertrand nous explique comment pratiquer l'un en préservant l'autre.
Bonjour Bertrand.
Bonjour Martine et bonjour aux auditeurs.
Et c'est vrai qu'elle est belle l'eau de notre pays, comme le chantait Serge Lama, à condition de ne pas en avoir trop. Mais là en ce moment, c'est vrai que c'est la neige qui nous rend visite. Alors ce qui est étonnant, c'est que les gens sont toujours surpris, ou plutôt se laissent surprendre par la neige et se plaignent pour certains. Alors que vous nous avez déjà dit, Bertrand, que finalement une bonne chute de neige est profitable pour nos sols et pour notre jardin. Et d'ailleurs, un dicton dit « pluie et neige en février valent du fumier ».
Ouais, exactement. Alors beaucoup de gens se plaignent de la neige, mais quoi de plus normal que d'avoir de la neige en hiver? Alors l'été dernier, on se plaignait de la sécheresse, des nappes phréatiques qui étaient au plus bas, comme les disait Jean-Louis. Mais la pluie, la neige, le gel, bah, tout ça est tout à fait normal en période hivernale. Hein. Donc dans cette période, il y a plus de culture, les arbres ont perdu leurs feuilles, donc c'est le meilleur moment pour recharger les nappes phréatiques. Alors, la neige en hiver, c'est vraiment très bon pour le jardin. Par grand froid, ça sert de couverture isolante, hein, elle protège les plantes du froid. En plus, l'eau, quand ça va fondre, ça va s'infiltrer tout doucement dans le sol, et puis humidifier en profondeur. Donc ça participe aussi au rechargement des nappes phréatiques. Et en fin de compte, la neige, quand elle tombe également, elle se charge en azote de l'air. Tout doucement, elle se charge en azote de l'air. Pas beaucoup, mais c'est suffisant pour enrichir le sol. Et puis, ce que je voulais dire en fin de compte, c'est qu'elle permet, quand la neige va fondre, de connaître bien les zones qui sont les plus chaudes du jardin, parce que la neige va fondre plus précocement que les zones les plus froides.
Alors, Bertrand, justement, que faut-il faire et ne pas faire au jardin quand il neige ou quand il a neigé?
Alors, je dirais pas grand-chose. Hein. Toutefois, il faut éviter de marcher sur la pelouse, car la neige, lorsqu'elle aura fondu, on verra vos pas, parce que la neige, c'est isolant, parce qu'il y a beaucoup d'air à l'intérieur. Et si vous tassez la neige, bah, ça va brûler l'herbe, et forcément, ça va marquer la pelouse. Alors, par contre, si vous avez des arbustes fragiles, des conifères, tout ça, vous devez secouer un peu les branches, car un surpoids de neige pourrait bien les briser. De même, si vous avez un camélia, on secoue aussi les branches pour éviter la neige sur les boutons floraux, parce que ça les brûle. Et si vous avez des bambous, on peut secouer les branches avant, mais il arrive parfois qu'on n'a pas le temps, et on retrouve ces bambous à l'horizontale. Donc, faut pas trop s'inquiéter, on secoue et ils se redressent. Donc, et puis s'il y a de la neige, si on a encore de la neige en février, bah, ce sera le bon moment pour faire des balades, pour admirer le paysage et puis prendre quelques photos.
Tout à fait. Et alors Bertrand, justement, vous parliez un petit peu fleurs, hein, entre guillemets, si je peux dire. Doit-on craindre pour nos bulbes, c'est-à-dire les tulipes, les jacinthes, les narcisses ou les jonquilles?
Alors non, il n'y a vraiment rien à craindre. Hein, pour ces plantes bulbeuses, elles sont très rustiques. Hein. Moi, j'ai déjà vu s'épanouir des fleurs de tulipes au-dessus de la neige. Hein, donc rien à faire, vous n'avez rien à craindre là-dessus. Tout va bien.
Alors, il paraît que c'est le bon moment pour tailler les framboisiers, Bertrand.
Alors, bon, oui, non. Alors, il y a deux sortes de framboisiers, les remontants et les non-remontants. Donc, on va tailler les non-remontants après la dernière récolte. Donc, on coupe au ras du sol toutes les tiges qui ont fructifié, ainsi que celles qui sont desséchées et puis les fragiles. Alors, l'hiver, ça peut être en février en ce moment, mais toujours hors période de gel, on va sélectionner les branches les plus vigoureuses, on va en conserver qu'une dizaine au mètre linéaire, on coupe toutes les autres. Alors, pour les framboisiers remontants, par contre, après la dernière récolte, hein, septembre-octobre, on va couper toutes les tiges et emporter des fruits, comme pour les non-remontants, et ainsi que les plus fragiles. Et là, ce sera en juin, on fera une taille d'éclaircissement pour ne conserver que les tiges les plus fortes, et toujours une dizaine par mètre linéaire. Mais il faut savoir aussi que pour obtenir de beaux framboisiers, il est important de bien préparer le sol, d'y mélanger un bon compost de fumier, avant la plantation, hein, ou de mettre un peu d'embrun, et au printemps, et puis peut-être en juin, ajouter un peu d'engrais organique.
Alors,
c'est mieux.
À chaque saison, c'est légumes. Hein. On répétera jamais assez, Bertrand, qu'il faut manger bio, mais aussi local et de saison. Et en ce moment, on voit sur les étals ces petits légumes racines, tout biscornus, les crônes. Et c'est vraiment le moment d'en manger, voire de goûter pour certains, car c'est vraiment délicieux.
Alors oui, c'est un légume qui revient sur nos étals. Hein. On l'appelle crône du Japon. Alors, il est originaire de Chine. C'est quand même bizarre de l'appeler du Japon. Et il était déjà mentionné en Chine en 1406. Et son nom crône nous vient d'un petit village de Seine-et-Marne, crône, justement, où il fut introduit pour la première fois en 1882. Donc ensuite, il a connu une grande période de popularité jusqu'à la Seconde Guerre mondiale. Puis là, il y a eu une forte baisse de rendement à cause d'un virus, hein. Sans doute, on a trop multiplié le crône à partir de la même souche, et il tombe alors dans l'oubli. Et c'est en 1980 à l'école d'horticulture d'Angers qu'on réussit à assainir les souches en triple rendement et sa culture reprend timidement. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui on commence à redécouvrir sur les marchés. Donc c'est un légume qu'on peut qualifier de perpétuel, un peu comme le topinambour. S'il reste dans le sol, il redémarre au printemps et il peut même devenir envahissant. Hein. Donc il faut faire attention aux cultures de proximité. Donc vous le plantez en terre légère, ça va faciliter le nettoyage parce qu'on ne va pas éplucher le crâne, on va simplement le frotter, on laisse la peau. Les rhizomes sont un peu biscornus, donc pas besoin d'éplucher. Les rhizomes se forment que tardivement. La récolte ne commence qu'en octobre-novembre, lorsque les feuilles sont bien sèches, et on récolte au fur et à mesure des besoins, car comme le crâne fane rapidement à l'air, on va récolter tout l'hiver, et voilà.
Mais justement, à quelle époque faut-il le planter ?
Alors, on peut le planter en mars-avril, hein, les premières plantations en mars-avril, et puis vous pouvez en planter chaque année en mars-avril. Donc si vous en commandez, vous avez intérêt, dès qu'ils arrivent, à le planter tout de suite en terre, parce que comme ça se dessèche rapidement, il faut le mettre tout de suite en terre. Hein. Donc, voilà, il n'y a pas de choses spéciales à dire, à part qu'il lui faut un emplacement ensoleillé, une bonne terre humifère, hein, où il risque pas de déranger non plus les autres plantes, hein, parce qu'il peut devenir très envahissant. Et puis si jamais il reste des rhizomes dans le sol, bah, vous les reverrez démarrer au printemps. Mais tant mieux, parce que c'est vraiment ces petits rhizomes blancs sont vraiment tendres et délicieux. C'est un légume à redécouvrir absolument, donc laissez-leur une place au jardin.
Et puis qui ne demande pas de travail, puisque finalement, il ne faut même pas les éplucher.
Ça pousse tout seul. Mais il faut bien les laver quand même. Donc si c'est une terre assez lourde, on a du mal à les laver. Pour ça, une terre légère, c'est mieux.
Alors Bertrand, on rappelle bien sûr qu'il faut absolument nourrir les oiseaux et leur donner de la graisse à cette époque de l'année. Hein.
Oui, nous l'avons déjà dit, hein, les oiseaux sont nos principaux filières du jardin. Et l'hiver, c'est vraiment une période difficile pour eux. Alors, on va les aider à survivre un peu en apportant de la nourriture sous forme de graines et de graisses. Hein. Donc, on l'avait déjà dit également, la Voix du Nord a fait paraître un article sur la disparition des oiseaux dans notre région. En gros, sur 10 ans, c'est moins 50% d'oiseaux dans notre région. Donc, c'est énorme, hein, c'est très grave même. Donc, les seuls dont le nombre diminue légèrement, ce sont les oiseaux de nos jardins. Pourquoi ? Parce qu'on les nourrit l'hiver. Alors si on veut toujours avoir des oiseaux, si on ne veut pas être envahi de moustiques ou autres insectes on va donc continuer à les nourrir. Alors attention, ne leur donnez pas de pain l'hiver, hein, parce que ce dernier va gonfler dans l'estomac et il n'y aura pas assez de réserve, l'oiseau n'aura pas assez de réserve pour passer une nuit froide.
Attention à ça. Hein. Tout à fait. Alors Bertrand, cette semaine, je ne vous demande pas d'astuces pour jardiner bio, car en ce moment, cela se fait tout seul. Et oui, les grands froids permettent de détruire une partie des parasites et des ravageurs du jardin, comme les œufs, les larves, les adultes en hibernation, mais aussi les moisissures. Donc il n'y a qu'à laisser faire, là, pour l'instant.
Oui, tout à fait. Le froid, ça a du bon. Hein. Encore faut-il que la période de froid soit suffisamment longue pour que le gel puisse bien pénétrer en profondeur. Hein. Pour qu'il puisse détruire ces parasites du jardin, il faut que ça rentre en profondeur. Si ça est superficiel, c'est déjà moins bon.
Tout à fait.
Mais voilà.
Alors, Bertrand, je rappelle que vous êtes le président de l'Association des paysages des jardins et des hommes. Et à ce titre, vous organisez une conférence le 23 février à 18h30 à Averskerque, salle des fêtes.
Oui, tout à fait. Donc c'est bien le vendredi 23 février à 18h30 à la salle des fêtes d'Averskerque, c'est la rue du 11 novembre. Alors on reprend en 2018 le cycle de nos conférences, hein, à peu près une fois par mois, et ce jour-là on posera un regard sur les arbres, afin justement de ne plus les regarder de la même façon. Donc l'arbre, les plantes en général sont des êtres vivants, ils sont dotés d'intelligence, entre guillemets, mais dotés d'intelligence. Donc cette conférence va permettre de découvrir les arbres de façon inhabituelle et de faire un peu le point sur toutes les diverses recherches en cours. Donc nos conférences, je rappelle, sont gratuites, hein, et ouvertes à tout le monde. Donc n'hésitez pas à venir et à amener des amis.
Tout à fait. Alors, conférence gratuite, ouverte à tous, regard sur les arbres. Et j'ajouterai qu'en effet, après avoir assisté à cette conférence, eh bien, on ne voit plus du tout les arbres de la même façon. Et je dirais même que lorsqu'on voit abattre un arbre, on a mal, Bertrand.
Ouais, tout à fait.
Merci Bertrand, je vous souhaite une très très bonne semaine.
Merci à vous. À vous aussi, Martine.
L'arbre va tomber, les branches salissaient les murs. Et rien ne doit rester, le monsieur veut garer sa voiture. Nous, on l'avait griffé, juste pour mettre des flèches et des cœurs. Mais l'arbre va tomber, le monde regarde ailleurs.
l'arbre va tomber, ça fera de la place au carrefour. L'homme est décidé, et l'homme est le plus fort, toujours. C'est pas compliqué, ça va pas lui prendre longtemps. Tout faire dégringoler, l'arbre avec les oiseaux dedans. Il y avait pourtant tellement de gens qui s'y abritaient, et tellement qui s'y abritent encore. Toujours sur nous penchés quand les averses tombaient, une vie d'arbre à coucher dehors. L'arbre va tomber, l'homme veut mesurer sa force. Et l'homme est décidé, la lame est déjà sur l'écorce.
De cette conférence sur les arbres qui aura lieu à Averskerk le vendredi 23 février. Et là, c'était Francis Cabrel et c'est sur Radio Plus. Tout de suite, Fabienne de Oliveira avec nous pour... Vous allez voir, elle a fait vraiment quelque chose de formidable, Fabienne. C'est vrai que de nombreuses associations œuvrent dans toutes les régions de France pour améliorer les conditions de vie de personnes malades en perte d'autonomie ou en difficulté. Et Fabienne de Oliveira a créé l'association ISRA, c'est-à-dire innover, sensibiliser, réagir pour l'avenir des personnes autistes. On rappelle que l'autisme s'inscrit dans le spectre le plus large des troubles envahissants du développement. Et en France, à la naissance, il y a beaucoup d'enfants, enfin, il y a un enfant sur 100 où on redoute une forme d'autisme, si je puis dire. C'est un handicap qui se manifeste par des altérations de la communication et des interactions sociales. Fabienne de Oliveira, bonjour.
Bonjour.
Alors, très concernée par ce handicap, vous avez créé donc l'association ISRA en 2011, mais avec quel objectif ? Quels objectifs, je dirais, parce qu'il y en a plusieurs.
Alors déjà, l'objectif, c'est de changer le regard qu'on peut avoir sur l'autisme. Alors tout d'abord, parce que je suis maman, hein, une jeune femme autiste, elle a 29 ans aujourd'hui, et que voilà, jusqu'au moment de son diagnostic, je ne connaissais pas l'autisme, et j'ai découvert beaucoup de choses le jour où elle a été diagnostiquée, et j'avais un regard un peu particulier sur ce que je connaissais de l'autisme avant le diagnostic de Louise, et après. Et je me suis dit qu'on était certainement très nombreux à avoir un regard un peu inadapté de l'autisme.
Alors justement, très concernée par ce handicap, vous avez créé cette association. Donc qui vous a rejoint dans cette association ? Je veux dire par là, quels en sont les adhérents ?
Alors, quand j'ai créé l'association, je dirais j'étais seule, puisque j'avais l'impression d'être seule au monde avec ma fille, hein, qui venait d'avoir un diagnostic autisme. Et j'ai créé l'association dans un premier temps avec des personnes qui étaient sensibilisées, mais pas directement concernées, sensibilisées par le parcours que j'avais vécu avec elle. Et puis, petit à petit, beaucoup de familles nous ont rejoints, donc des parents d'enfants et d'adultes avec autisme, avec ou sans déficience intellectuelle, autiste Asperger ou autisme de Canet, avec des parcours très très complexes et qui avaient besoin d'échanger avec d'autres familles. C'est comme ça que c'est construit en fait l'association. Voilà.
Alors, changer le regard sur l'autisme, il est vrai que de nombreux clichés illustrent notre vision de l'autisme. On pense souvent à des êtres soit surdoués ou complètement repliés sur eux-mêmes, qui fascinent ou qui déroutent. Les enfants autistes subissent une discrimination quotidienne. Changer le regard de la société, un vrai parcours de combattant, Fabienne.
Oui, Et oui, c'est une bataille de tous les jours. On a commencé par prouver qu'ils étaient en capacité, s'ils étaient soutenus, de vivre en autonomie dans leur propre appartement avec leur béquille qu'on met en place tous les jours, hein, puisqu'ils ont des difficultés, vous l'avez dit tout à l'heure, d'interaction sociale. Ils ont un mode de compréhension qui est différent d'une autre, tout simplement. Ils n'ont pas les mêmes codes sociaux que nous, donc voilà, tout est à travailler pour leur permettre de l'inclusion dans la société. C'est ce qu'on a commencé avec l'habitat. Aujourd'hui, il y a un énorme chantier qui est celui de l'insertion professionnelle. Hein, la porte d'entrée, c'est vivre dans son logement, puis après, on cherche du travail. Voilà, donc il faut changer le regard dans le sens où ils ont plein de compétences et plein de potentiel. Ce qui est différent de nous, c'est les codes sociaux qui sont pas les mêmes, en fait, pour eux, pour nous, mais qui a dit que c'est nos codes sociaux à nous qui sont les plus adaptés, ça, j'ai encore un doute.
Tout à fait. Et puis, bon, c'est vrai qu'on parle beaucoup des enfants autistes, mais on oublie qu'ils deviennent des adultes. Et on a l'impression que ceux-ci sont un peu les oubliés de notre société quand même. Alors, justement, que faudrait-il faire pour que cela change ?
Alors là, déjà, il faudrait que les adultes soient tous diagnostiqués. Aujourd'hui, quand on parle d'adultes, on parle souvent d'enfants qui ont été accompagnés de façon inadaptée souvent pendant toute leur enfance, parce que heureusement, il y a eu les plans autisme. Maintenant, on diagnostique plus précocement et tant mieux. Voilà, on fait des choses dès la petite enfance et du coup, ça impacte sur leur avenir. Aujourd'hui, il y a beaucoup d'adultes autistes qui n'ont pas bénéficié de tout ça et qui sont parfois pris en charge de façon, je ne vais pas dire inadaptée, mais pas tout à fait adaptée à leur mode de fonctionnement. Donc aujourd'hui, on a beaucoup de retard à rattraper pour l'autisme. Moi, je dis souvent, c'est les oubliés. Aujourd'hui, les autistes qui ont, de la génération 25, 40, 50, sont les oubliés. Il faut vraiment faire quelque chose pour eux aujourd'hui.
Alors, vous parliez tout à l'heure d'autonomie. C'est vrai que les préjugés sont nombreux. Par exemple, qu'une personne autiste ne peut pas être autonome, ce qui est faux. Et vous voulez absolument le prouver. Vous l'avez prouvé.
Oui, elles peuvent être autonomes quand on leur donne. Je parlais tout à l'heure d'une béquille. Je fais toujours, je veux dire, quand on est en difficulté, on s'appuie sur une béquille. Quand on a une jambe cassée, on a une béquille qui nous aide à rester autonome et pouvoir faire notre vaisselle et faire notre lit malgré qu'on a le pied dans le plâtre. Et là, c'est pareil en fait. L'idée, c'est vraiment de trouver les outils adaptés qui leur permettent d'être autonome, c'est-à-dire être en capacité d'aller chercher l'information pour être autonome. C'est quoi l'autonomie ? C'est pas toujours savoir faire tout seul, c'est de savoir interpeller la bonne personne ou utiliser le bon outil pour être autonome. Nous-mêmes, on n'est pas, moi je le dis souvent, quand je sais pas changer une roue, si je crève aujourd'hui sur la route, je sais pas changer une roue, mais je suis quand même autonome parce que j'appellerai mon mari pour qu'il vienne la changer. Voilà, c'est ça l'autonomie, c'est pas forcément faire tout seul, c'est être en capacité de s'appuyer sur des supports, des outils. Alors les personnes autistes sont très visuelles, hein. Donc des outils visuels, des outils très structurés dans le temps et dans l'espace, ça les sécurise. Et il s'appuie sur ses outils pour être autonome. Et c'est ça qu'il faut développer aujourd'hui.
Alors, je suis persuadée justement que l'adulte autiste peut prendre place dans la société. Votre association ISRA, je ne sais pas si vous dites ISRAA ou ISRA. Le guide vers l'autonomie en lui offrant un logement adapté justement.
Oui. Oui, c'est ça. C'est parti du principe que même s'ils avaient ces difficultés, même s'ils étaient diagnostiqués autistes, ils avaient aussi une capacité de faire des choix, hein, comme vous et moi, on a le droit de choisir où on a envie de vivre et comment on a envie de vivre. Et c'est vrai que le dispositif Habitat, il repose sur la possibilité pour eux de faire des choix et on les aide à faire ces choix-là et ils ont le droit d'avoir ces choix-là. Donc c'est vrai que l'idée d'Habitat, c'est ils viennent vivre là parce qu'ils ont envie de vivre. Voilà. Et il n'y en a aucun qui est venu parce que les parents avaient dit ce serait bien que tu ailles là. Non, tout ce qui a été fait, ça a été fait avec eux. On les a rencontrés bien avant, on les a accompagnés bien avant, on les a rencontrés dès que les logements ont été disponibles, on les a rencontrés individuellement pour savoir si c'était bien leur projet. On les accompagne dans un projet de vie. Au-delà de l'habitat, c'est quoi votre projet de vie? Où est-ce que vous voulez aller? Et c'est en ça où c'est... Où c'est particulier, c'est vraiment ils choisissent de vivre dans la ville. On est vraiment au sein de la ville, hein. On n'est pas à l'écart, il y a les transports en commun à côté, ils ont accès à tous les services de la ville.
Alors on revient au logement, Fabienne, à quoi ça ressemble un logement adapté?
Alors, ça n'est pas un logement adapté en tant que tel, puisque ce sont des appartements type T1 bis, avec une cuisine, une chambre, voilà, un appartement qui fait à peu près 34 mètres carrés, on va dire. Donc, ça, c'est vraiment leur univers à eux, là où ils ont besoin de se retrouver, hein, parce que on parlait tout à l'heure des codes sociaux. Nous, on les acquiert naturellement, eux, ils doivent les apprendre, et c'est très fatigant sur une journée d'apprendre nos codes sociaux. Donc, leur espace de vie est fondamental, c'est leur espace à eux, c'est un espace où ils peuvent se retrouver, mais c'est un appartement tout à fait classique. Ce qu'il y a d'adapté, c'est un appartement supplémentaire, donc en plus des 10, un appartement où ils se retrouvent, où on va recréer les interactions sociales, où on va travailler avec eux les outils qui vont leur permettre justement cette autonomie. Voilà, toutes les activités qui vont leur permettre aussi de trouver du plaisir dans des activités, parce que le plaisir dans les activités, ils ne vont pas le chercher spontanément. Les activités de loisirs, nous on fait une activité de loisirs parce que ça nous fait plaisir. Eux, c'est compliqué d'aller chercher du plaisir. Donc nous, on les aide à trouver des choses qui vont leur permettre, voilà, d'avoir cette vie qui va ressembler à la nôtre, en fait.
Alors justement, c'est un bien beau projet pour lequel il vous faut compter, je suppose, sur des partenaires, hein, que ce soit au niveau structure, pécuniaire, et je pense que les instances locales vous prêtent aussi main forte. Très vite, Fabienne.
Oui, alors on a une aide du conseil départemental pour coordonner un petit peu tout ça. C'est un financement pluriannuel pour les 10 locataires, donc qui va donner un petit coup de pouce sur l'accompagnement. Après, effectivement, on a besoin de financement comme toutes les petites associations. On est une petite association, c'est créé en 2011, donc tout ce qu'on fait avec eux, on essaie de trouver des financements à gauche, à droite, qui nous permettent de organiser avec eux des vacances, des loisirs, des sorties. Voilà.
Tout à fait. Donc, je vois que vous avez encore des projets. Et bien sûr, avant de nous séparer, Fabienne de Oliveira, je vais vous demander des coordonnées. On ne sait jamais, hein, s'il y a parmi nos auditeurs des gens qui voudraient vous aider dans cette belle entreprise.
Oui, alors nos coordonnées, donc l'association ISRA a son siège à Ouescal, hein, donc c'est 60 rue John Fitzgerald Kennedy à Ouescal, 59 290, et le numéro de téléphone, c'est le 06 20 19 94 30.
Voilà, merci Fabienne.
Merci à vous.
Très très bonne semaine à vous. Merci.
Merci à vous aussi, au revoir.
Voilà, l'air du temps se termine pour aujourd'hui, mais rendez-vous la semaine prochaine. Et puis tout de suite, vous restez avec moi, bien sûr.